France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Je vous invite à passer ce soir une heure en compagnie de Francis Poulenc. Il ne s'agit pas d'un entretien, mais d'une émission parmi celles que le compositeur avait présentées lui-même entre 1947 et 1949 dans la série intitulée « À bâton rompu ». Avec l'espièglerie et l'humour qu'on lui connaît, Francis Poulenc consacrait chacune de ses émissions à un compositeur ou à un thème, révélant son goût pour l'éclectisme musical. Dans les extraits que nous vous proposons ce soir, Francis Poulenc évoque sa propre musique. Tendez bien l'oreille, car l'archive crépite et croustille, nous sommes en 1948.
Chers auditeurs, je vous ferai entendre ce soir une série d'enregistrements de ma propre musique. Quel toupet, diront certains d'entre vous. Mais tant pis, je passe outre. Mon but n'est pas en effet de vous faire admirer ma musique. Personne n'est plus sévère que moi à son égard, croyez-le bien. Mais simplement de traiter à son propos la question si grave de l'interprétation musicale. Imagine-t-on ce que c'est pour un auteur que de s'entendre jouer ? Un peintre peut critiquer un cadre, maudire un éclairage, déplorer un mauvais accrochage. Mais qu'est-ce, je vous le demande, à côté de certaines trahisons musicales? On demandait un jour à un auteur célèbre ce qu'il pensait de l'interprétation d'un de ses concertos par un pianiste illustre. « Il a fait toutes les notes, répondit-il. « Et cela ne vous suffit pas, maître ?»« Non, car il a escamoté l'essentiel, ce qui est entre les notes. » Ceci me rappelle une phrase de Léon-Paul Fargue que je mettrai volontiers en exergue pour toute ma musique. En art, il faut y croire avant d'aller y voir. Et c'est là que se place l'angoissante question de l'interprète. Depuis 30 ans que j'écris de la musique, j'ai tour à tour souhaité, je vous l'avoue, de pouvoir étrangler une douzaine de chefs d'orchestre, poignarder plus de 50 pianistes, révolvériser au moins 200 chanteuses. Mais comme dans le fond je suis pacifique, tout ceci, rassurez-vous, restera à l'état de velléité. On a beau mettre le maximum d'indications dans une édition musicale, on est toujours stupéfait de constater combien les interprètes en tiennent peu compte. Nombreux sont ceux qui confondent le mot andante et largo. Allez donc leur expliquer qu'andante veut dire allant, donc pas trop lent. Cet automne, un pianiste vint me jouer quelques-unes de mes pièces. Comme je m'étonnais de constater quel tempo joyeux représentait pour lui le calme 66 à la noire, « Maître, me répondit-il, je ne me sers jamais du métronome. Un tempo doit se sentir. »« Mon déjeuner sent très bon, lui répondis-je. Au revoir, cher monsieur. » Et je le poussai vers la porte. Certes, un tempo ne doit pas être d'une rigueur mécanique, mais il faut partir d'une base indiscutable. Ayons donc toujours sur notre piano le charmant obélisque batteur de mesure des pensionnats de jadis. La question des nuances est encore beaucoup plus grave, car ce n'est souvent qu'une question de relativité. Nous savons par les témoignages de ses contemporains que Chopin ne jouait jamais très fort, mais que les rapports de ses nuances étaient tellement dosés qu'il donnait, s'il le voulait, l'impression de crescendo formidable. Dans le facteur nuance, tout entre en jeu jusqu'au mécanisme du piano. L'expérience des tournées où l'on joue tant de pianos différents m'a prouvé une fois pour toutes qu'il faut savoir modifier sa palette au dernier moment. Je pense qu'on oublie plus facilement les nuances que les notes. Pour ce qui est des nuances, le jeu des pédales est à la base du dosage sonore. J'ai dit, et je le répète, et je le répéterai toujours, que le pianiste est un quadrupède et que s'il néglige ses pieds, il est foutu. Tant de pianistes font fi des pédales que j'en suis arrivé à mettre sur ma musique des indications garde-fous, comme baigné de pédales, ruisselant de pédales, inondé de pédales. Toutes ces considérations techniques admises, une fois pour toutes, il reste encore cette immense marge blanche du style propre à chaque œuvre. Je pars de ce principe, un interprète n'est pas universel et qu'il ne peut s'assimiler qu'un certain genre de musique. Je défie un pianiste de jouer également bien Beethoven, Debussy, Schumann et Ravel. Au théâtre, on tient bien compte des emplois. Imagine-t-on, par exemple, Fernandel dans le Cid? Faisons de même pour la musique. Donnons Beethoven à Schnabel, Debussy à Gieseking, Schumann à Kempf, Ravel à Casadesus. Aujourd'hui, le disque accroît les angoisses du pauvre compositeur. Un mauvais concert devient vite un simple souvenir, mais le disque reste. Le pire pour un compositeur, c'est le disque trahison par un virtuose célèbre. Car pour les auditeurs de bonne volonté, cela crée le pire des malentendus. Ainsi circulent de par le monde certains mouvements perpétuels qui me mettent en boule. Quelle joie, par contre, lorsqu'un grand artiste, loin de vous trahir, vous révèle toutes les possibilités de votre musique. Tout récemment, j'ai eu la joie de trouver à New York deux enregistrements superbes d'un petit morceau de moi que je tiens, soyez-en sûrs, pour bien peu de choses. En 1937, Horowitz m'ayant demandé de lui écrire un encore, comme on dit en Amérique, je commis un presto en si bémol que vous allez lui entendre jouer. En 1939, juste avant la guerre, Heifetz me demanda l'autorisation de le transposer pour le violon. Je pense qu'il vous amusera d'entendre cette petite pièce dans sa double version. Non seulement ces deux virtuoses ont deviné mon tempo exact, mais chose curieuse, le leur est sensiblement le même. L'enregistrement d'Horowitz est le triomphe de la technique et du brillant, celui d'Aefes, le triomphe du style. À vous de choisir. Arrivant à New York, j'ai eu aussi la surprise de trouver mon concerto pour deux pianos enregistré par un team excellent de pianistes américains et l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Mitropoulos. Ce n'est pas une de mes œuvres auxquelles je tienne particulièrement, mais un certain brillant d'écriture lui assure une carrière mondiale à laquelle je n'aurais jamais osé prétendre en l'écrivant. Composée en 1932 à l'instigation de la princesse de Polignac pour le Festival de Venise, cette œuvre de circonstance n'est qu'un divertissement, d'où une série de gags musicaux. Ayant toujours joué moi-même l'un des pianos, l'autre étant tenu depuis la création par mon ami Jacques Février, c'est en réalité la première fois que j'entendais ce concerto en dehors de l'orchestre. Tout de suite, j'ai été frappé par l'excellence de l'exécution. Les pianistes sont des virtuoses de race, Mitropoulos est un chef prodigieux. Ma nièce, excellente musicienne, à qui j'ai fait entendre ces disques, m'a fait cette amusante réflexion. Si j'entendais ces disques après ta mort, je me dirais, tiens, Francis aurait été content. Certes, je suis ravi, enchanté. Je regrette cependant de n'avoir pu travailler avec mes interprètes avant l'enregistrement. Je leur ai d'ailleurs depuis expliqué l'œuvre en détail et je vous assure qu'ils la jouent maintenant à la perfection. Si vous le voulez bien, nous allons procéder à une audition critique. Défaut général, trop de recherche, trop d'intention, quelque chose d'un peu pédant, un toucher un peu allemand, ce qui convient mal à cette œuvre parisienne. Dès le début du premier mouvement, les accords rythmés et les basses staccato ont trop de poids. Un tempo légèrement plus rapide eût remédié à ce défaut. Cela traite. On me reproche souvent de jouer trop vite ma musique, c'est une erreur. Mes tempi sont les seuls bons, seulement voilà, je n'ai pas la technique d'un virtuose. Horowitz et Heifetz m'ont tout à l'heure donné raison quant à la vitesse de ma musique. Mais revenons à nos pianistes. Le long solo des deux pianos, souligné de simples gammes de bassons, est aussi un peu empoulé. Par contre, quelle merveilleuse reprise rythmique du thème initial. La cadence finale, inspirée par les musiques balinaises, est un peu trop hâtive. Plus de langueur eût chauffé l'atmosphère. Mais quel joli toucher pianistique dans les dernières mesures. Avant les six justes accents des triolets finaux. Écoutez le premier temps de mon concerto pour deux pianos et orchestre. Thank you. L'andante est beaucoup moins bien jouée. Le tempo est trop lent. On doit battre à ses barrets et non à quatre temps. Ce larghetto à la Mozart doit se jouer sans histoire, tout droit, sans aucun effet et surtout sans rubato. On chercherait d'ailleurs en vain dans toute ma musique plus de 10 mesures de rubato. Le départ, légèrement accéléré, de la seconde idée est par contre mené de main de mer par Whitmore Hanlow. Ensuite, cela presse un peu trop. Un crescendo ne va pas forcément de pair avec un accélérando. Les dernières mesures des bassons donnent une idée exacte de ce qu'aurait dû être le tempo général de ce larghetto. n'ai pas le temps de vous faire entendre le final, mais comme c'est le plus parfaitement joué, il est de ce fait moins intéressant à entendre, puisque cette audition est une audition critique. En résumé, malgré quelques péchés véniels, cet enregistrement est pour moi une source de joie, car il m'a prouvé qu'avec du scrupule et du goût, deux interprètes, messieurs Whitmore and Lowe, peuvent s'approcher tout près de la vérité. Chers auditeurs, au début de la semaine, je ne savais pas très bien de quoi je vous parlerai ce soir, lorsqu'un événement imprévu m'a tout à coup donné une envie folle de crier par-dessus les toits les louanges de la musique italienne du 19e siècle. Voici ce qui s'est passé. Il y a 2 ou 3 jours, je me suis rendu à l'invitation d'une charmante amie qui n'a qu'un tort. Celui de m'inviter chez elle les jours où elle réunit ce qu'elle estime représenter la fleur de l'intelligence parisienne. Je fuis en général ce genre de réunion, car je trouve très ennuyeux de parler de son métier après un bon dîner. Imagine-t-on un marchand de chaussures continuant à discuter longueur d'empeigne entre la poire et le fromage. Enfin, comme j'aime beaucoup cet ami, je m'étais laissé faire. Pour une fois, mais mal m'en a pris. En entrant dans le salon, je repérai immédiatement une dame mélomane que je n'aime pas et qui me le rend au centuple, croyez-le bien. J'évitais de lui parler une bonne partie de la soirée, mais tout à coup, à la suite d'un vaste mouvement de chaises, je me trouvais assis à côté d'elle. J'ai écouté dernièrement votre émission sur Bartok et Berg, c'était intéressant. Où avez-vous trouvé ces disques de votre sec? À New York, chère madame. C'est drôle que vous ayez eu l'idée de les acheter. Vous ignorez donc, madame, que j'aime la musique de Berg? Non, je l'ignore pas, mais cela m'étonne toujours. À une époque où l'on a plus grand sujet d'étonnement, avouez, madame, que c'est toujours cela. Silence. Puis, nous parlons disques. J'énumère quelques disques que j'ai rapportés d'Amérique. Je parle des danses concertantes, des scènes de ballet de Stravinsky. Elle. Oh, Stravinsky depuis les noces ne m'intéresse pas. Je cite les tableaux d'une exposition orchestrée par Ravel et enregistrée par Rodzinski. Sourire de commisération. Agacé, je me dis, allons jusqu'au bout. Et j'énumère une série d'enregistrements italiens de Bellini, Verdi, Puccini. Un regard d'un tel mépris me prit alors au filet. Que mon demi-sang à Véronais, culbutant ce que mon autre moitié parisienne a de polissé, je fis une colère de marchand de chevaux à la foire de Rodez, tout le monde de rire et de faire cercle. Seul, comme 2 coqs en furie, la dame et moi gardions notre sérieux. Je ne tardais pas à partir.
En remettant mon manteau, j'entendis mon adversaire dire « Pas étonnant qu'il aime Puccini avec la seule musique qu'il fait. » Ce à quoi je répondis assez fort pour qu'elle l'entende. Comme c'est facile de couper le cheveu en quatre lorsqu'on l'a gras. Quelle histoire, mon cher Poulain, m'a dit au téléphone le lendemain mon hôtesse, épouvantée mais enchantée dans le fond. Rentré chez moi de fort méchante humeur, ma colère tomba dès que, en dépit de l'heure tardive, je mis sur mon phonographe un de ces divins disques italiens. Une fois de plus, j'ai compris la bêtise d'une bande de mélomanes pour qui le charme ne compte pas. Et le sourire m'est revenu en me rappelant le mot si spirituel d'Henri Sauguet, alors que dans un genre de réunion semblable, un pédant en lunettes et d'écailles lui demandait d'un ton supérieur « À quoi vous occupez-vous actuellement, monsieur Sauguet ?»« J'étudie le rôle du bémol dans l'œuvre de Bach, répondit imperturbablement l'auteur des forains. C'est parce que la musique est souvent la proie d'une bande de pions qu'il y a des jours où je me demande si je l'aime encore. Je sais que pour certains, une mélodie de Bellini, c'est une sucrerie abominable. Que la musique de Chopin, qui adorait Bellini, c'est de la musique de salon. Mais vive un bon Zabaion Bellini, vive une mazurka de Chopin. André Gide vient d'ailleurs de s'en expliquer magistralement. La mélodie italienne, fleurs bon, l'oranger et le jasmin, libre à certains de préférer l'odeur du Flytox. Ne trouve pas qui veut l'air prodigieux de la Casta Diva de Bellini. Je me souviendrai toujours d'une de mes plus merveilleuses soirées de ma vie. Me rendant en 1934 de Cannes à Rome, où je jouais à l'Académie Santa Cecilia, je décidai de m'arrêter à Gênes, que je ne connaissais pas. Me promenant dans les rues en fin de journée, avec l'ivresse, pour moi toujours nouvelle, de la solitaire découverte d'une ville inconnue. J'arrivai devant l'opéra. On donnait ce soir-là la Norma. Grâce à un marchand de billets, je pus me procurer un fauteuil. Quel plaisir divin d'entendre cette musique dans son vrai cadre, chantée par des voix d'or. Et puis, personne de connaissance dans la salle. Des entr'actes où enfin l'on ne se disperse pas. À la sortie, marchant longtemps dans les rues, toujours aussi animé, je contemplais avec extase un vrai ciel bleu de nuit, en fredonnant cet air Casta Diva que vous allez entendre chanter d'une façon sublime par Madame Rosa Poncel et l'orchestre du Metropolitan Opera de New York.
Thank you.
On m'a raconté, je vous dis ceci pour terminer, la jolie histoire d'une danseuse célèbre qui prétendait poétiquement ne se nourrir que de fleurs. Un soir, on l'a surprise dans sa loge, mangeant à pleines dents cachées derrière un paravent une solide côtelette de porc. Peut-être qu'après tout, mon interlocutrice de l'autre soir en fait autant en écoutant cette mauvaise musique. C'est la grâce que je lui souhaite.
Chers auditeurs, avec ce dernier samedi de mai, je vous demanderai la permission de prendre congé de vous. Cette émission sera donc la dernière. J'espère ne pas vous avoir trop déçu au cours de cet hiver. J'ai fait de mon mieux, soyez certains, mais hélas, on n'a pas toujours les disques qu'on voudrait, et souvent ceux qui existent sont en si piteux état qu'on hésite à les passer. J'ai pensé que ce soir, pour donner à mon congé une allure toute personnelle, vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je vous fasse entendre quelques disques de ma propre musique. Comme la plupart du temps, ces disques sont enregistrés à Londres, ils sont introuvables à Paris, et ils auront tout au moins, sinon le mérite de la qualité musicale, du moins celui de l'inédit. Comme on sait, la mélodie est un de mes moyens d'expression favoris. Hélas, je suis bien souvent trahi par mes interprètes. Si du côté chanteur, j'ai été souvent satisfait, que n'ai-je à déplorer, mon Dieu, du côté des accompagnateurs. Les disques que vous entendrez ce soir sont les derniers de notre tandem Bernard Poulain. Il est indiscutable que depuis 2 ans, les enregistrements ont fait dans les studios de Londres de grands progrès. Le piano, enfin, a son micro spécial et, ainsi, il n'est ni trop effacé, ni trop indiscret. Le grand drame pour ma musique de piano, c'est, voyez-vous, qu'on ne met jamais assez de pédales. Or, ma musique sans pédales, c'est de la cuisine sans beurre. Je le dis, je le répète, je le crie, je le hurle, il faut jouer ma musique avec beaucoup de pédales, énormément de pédales, follement de pédales. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faille pas la changer tout le temps. J'ai eu la chance de travailler mon piano avec un maître qui apprenait à ses élèves à se servir de la pédale, ce qui n'est pas fréquent chez les pédagogues. N'oublions pas que le pianiste est un quadrupède. Pardon de cette comparaison zoologique, chère Marguerite Flon, Magda Taliaferro, Monica et tant d'autres pianistes féminines. Mon maître Ricardo Vignes avait un système bien simple pour attirer l'attention de ses élèves. D'un léger coup d'une incroyable bottine à la poulaine, chevreau marron, bout glacé, il rappelait au pianiste distrait que ses pieds n'étaient pas synchrones avec ses doigts. Marcel Meyer et moi, que ces légers coups rendaient littéralement fous, nous ne le faisions pas répéter 2 fois. Si ma musique s'étiole par la faute des pianistes, les chanteurs ont eux aussi leur responsabilité. Il faut chanter ma musique comme du Schumann ou du Fauré. J'aime le chant pour le chant, c'est pourquoi je déteste ce qu'on appelle, par un généreux euphémisme, les chanteuses intelligentes, généralement privées de voix. Peu m'importe la prétendue compréhension jusqu'à l'extrême des mots, si le chanteur ou la chanteuse sont dépourvus de legato et si des insuffisances techniques brisent la ligne musicale. Si un interprète est intelligent, par surcroît, tant mieux, mais s'il chante bien, cela me suffit déjà amplement. Vous allez entendre comment on doit chanter le bestiaire. C'est une œuvre mélancolique. Il est donc stupide de l'interpréter avec humour. Claire Croizat, Maria Freund et Pierre Bernac sont les 3 seuls interprètes, selon mon cœur, d'une œuvre bien souvent galvaudée. Le bestiaire date de 1919. J'avais alors 20 ans, ce sont mes premières mélodies. Écoutez, le bestiaire ou cortège d'Orphée sur des poèmes de Guillaume Apollinaire.
Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses.
Personne n'a jamais chanté les airs chantés comme Suzanne Peignot. Bien que je n'aime que médiocrement ces mélodies, je tiens à vous faire entendre l'air romantique et l'air champêtre interprété par elle. Ce qui m'a toujours gêné dans ces airs chantés, c'est que je les ai composés par paradoxe. J'ai horreur, en effet, de la poésie de Moréard, Et c'était pour taquiner un ami, alors mon éditeur, que j'eus l'idée, par jeu, de mettre en musique quatre poèmes. Les mânes de Moréar se sont vengés, et le succès fait à ces mélodies m'est un constant sujet d'agacement. Ce qu'il y a de merveilleux dans l'interprétation de Suzanne Pénaud, c'est qu'elle est d'un seul jet. La voix de Suzanne Pénaud dans l'air champêtre a la précision d'un pied de baigneuse peint par Boucher. Malheureusement, le disque que vous allez entendre est déjà très ancien et quelque peu éraillé.
J'allais dans la campagne avec le bon orage, sous le pâle matin, sous les nuages forts, à propos des bruits, escorté mon voyage, et dans les flaques d'ombre tendissaient mes bras. La poudre à l'horizon faisait courir ma flamme, et l'aquilon doublait ses longs gémis avant.
Moréas, cela ne m'empêche pas d'aimer passionnément la poésie en général. C'est pourquoi mes mélodies sont si nombreuses. À l'âge de 10 ans, je savais par cœur Apparition de Mallarmé, et pendant quelques mois, je songeais à devenir un grand acteur. Les matinées classiques du théâtre français m'avaient tourné la tête. Hélas, je ne suis devenu qu'un quelconque musicien, on fait ce qu'on peut. Les poètes que j'ai le plus souvent mis en musique sont Apollinaire, Éluard, Louise de Villemorin et Aragon. Je ne me sens à l'aise, en effet, pour collaborer avec un poète que si j'ai entendu le son de sa voix. Ainsi, j'ai eu le grand bonheur d'entendre Apollinaire lire quelques-uns de ses poèmes. J'ai compris alors que même lorsqu'il y a chez lui de l'ironie, elle est toujours voilée de tendre mélancolie. C'est pourquoi, dans mon opéra « Bouffe, les mamelles de Tirésias », chaque fois que le mot « Paris » ou le mot « Seine », le fleuve bien entendu, interviennent, le ton passe de la bouffonnerie à la douce émotion. Je vais vous faire entendre, toujours par Bernac, une mélodie sur un poème d'Apollinaire, « Montparnasse », à laquelle je tiens beaucoup. C'est l'évocation poétique de ce Montparnasse de 1914, qui a vu naître les gloires de Picasso, Braque, Matisse, Modigliani et tant d'autres. Ce n'est pas une mélodie drôle, en dépit de l'imprévu de certaines images, mais au contraire, une mélodie lyrique et émue.
Aux portes de l'hôtel, avec de plantes
ouverte qui jamais ne porteront de fleurs. Où sont mes fruits? Où me plantais-je? Aux portes de si bien défendu la vertu. Donnez-moi pour toujours une chambre à la semaine. Ange barbu, vous êtes en réalité à part.
Terminé, je vais vous faire entendre une mélodie qu'on ne chante jamais, sans doute parce qu'elle est trop difficile. Cette mélodie est intitulée « Le jardin d'Anna », le poème est de Guillaume Apollinaire. Excusez-moi, mais j'ai la faiblesse d'aimer tout particulièrement cette mélodie. Une longue énumération d'images imprévues amène une chute poétique où se reflète une fois de plus la merveilleuse tendresse d'Apollinaire. L'interprétation de Bernac est tout simplement merveilleuse. Qu'il me soit permis de lui dire ici, une fois de plus, merci pour tout ce que mon œuvre vocale lui doit.
Certes, si nous avions vécu en l'an 1760, est-ce bien la date que vous déchiffrez, Anna, sur ce banc de pierre, et que par malheur j'eusse été allemand, mais que par bonheur j'eusse été près de vous, nous aurions parlé d'amour de façon imprécise, presque toujours en français. Et pendu éperdument à mon bras, vous m'auriez écouté vous parler de Pythagoras, en pensant aussi au café qu'on prendrait dans une demi-heure. Et l'automne eût été pareil à cet automne que l'épine vinette et les pampres couronnent. Et brusquement parfois j'eusse salué très bas de nobles dames grasses et langoureuses. J'aurais dégusté lentement et tout seul pendant de longues soirées le tocaille épais ou la malvoisie. J'aurais mis mon habit espagnol pour aller sur la route par laquelle arrive dans son vieux carrosse ma grand-mère qui se refuse à comprendre l'allemand. des écrits des vers pleins de mythologie. Sur vos seins, la vie champêtre, et sur les dames des alentours. J'aurais souvent cassé ma canne sur le dos d'un paysan. J'aurais aimé entendre de la musique en mangeant du jambon. J'aurais juré en allemand, je vous le jure, lorsque vous m'auriez surpris embrassant à pleine bouche cette servante rousse. Vous m'auriez pardonné dans le bois au myrtille. J'aurais fredonné un moment, puis nous aurions écouté longtemps les bruits du crépuscule.
Chers auditeurs, je vais prendre maintenant congé de vous. Bon été, bonnes vacances, et surtout, aimez chaque jour davantage la musique, grande ou petite. Ne l'oubliez pas, la réussite seule importe. C'est ce que j'ai toujours essayé de vous persuader au cours de ces entretiens à bâton rompu. Sur ce, très amicalement, au revoir.
Ainsi se referment les extraits de la série d'émissions à bâton rompu que Francis Poulenc présentait à la radio en 1948. Cette archive est disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr, sur la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet qui a réalisé et remis en forme ce document, avec Adelino Mello à la prise de son en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.